Avant de débuter cet épisode, je souhaite le dédier à Benjamin, alias Drozo, notre frère de la garde de nuit qui nous a quittés il y a peu de temps. Membre depuis 2013, il fut actif à de nombreux postes au sein de la communauté et du forum. Il avait fait un passage sur le podcast Le Son du Mur pour parler de la sortie du livre Fire and Blood en 2020. Et grâce à Werther, vous pouvez entendre la version audio des 4 articles qu'il a fait sur le parricide de Stanis en 2021. Grand admirateur de Stanis Baratheon, sans lui le seul véritable roi, mais on est tous un petit peu d'accord avec lui quand même, il était aussi l'un des maîtres du jeu de la garde de nuit, car il a masterisé, par exemple, plusieurs épisodes des Ombres de l'Harpie, notre jeu textuel d'intrigue et de trahison. Il a été le seul et unique dernier héros de la garde de nuit, du fait de son travail pour faire revenir le site de la garde de nuit suite à la longue nuit. Vous savez, le crash de notre serveur hébergeur en 2017. Il était aussi, au sein de la garde, un membre du bureau de l'association. Il a été trésorier adjoint, puis, cette année, secrétaire adjoint. Pour finir, je voudrais parler du dernier article qu'il a écrit sur le forum et que nous avons publié en son nom sur le blog, de la représentation du handicap dans la fiction. Concerné comme de nombreuses personnes par ce sujet, il avait voulu mettre la lumière sur cette question ô combien importante au sein des œuvres culturelles. Le syndrome de Marfan nous l'a enlevé. Alors, soutenons Marfan, l'association française des syndromes de Marfan et apparentés, qui soutient et informe les familles touchées par la maladie. Il y aura un lien pour apporter votre aide dans l'article de blog, dans la description du podcast ou sur YouTube. Mais surtout, Drozo était notre ami fidèle et aimé. Son érudition, son esprit affûté et piquant et sa très grande gentillesse ne manquera grandement. Il restera dans notre cœur et dans nos mémoires. Maintenant, place à notre épisode de la Gardez-vous avec Émilie de Bouddha Connexion. Bonjour les frères et sœurs de la garde de nuit. Pour ce nouvel épisode de la Gardez-vous, j'accueille Émilie de BuddhaConnection.net. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien le nom du site?
Alors, c'est un peu compliqué l'histoire du nom, mais nous on l'appelle BuddhaConnection, mais c'est par rapport à la. Voilà, mais on peut l'appeler comme on. Il n'y a pas de souci.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que BuddhaConnection?
Alors, BuddhaConnection, c'est un site qui est un peu un dinosaure de site internet, puisqu'il date de 2000, donc ça remonte à très longtemps maintenant. Et c'est un site qui est spécialisé dans le studio Ghibli, c'est-à-dire le studio qui a été créé par Isao Takahata et Hayao Miyazaki dans les années 80.
Le site a été créé en quelle année ?
Donc, le tout premier, parce qu'il y a eu plein de versions ensuite, il a été créé en 2000 par Xavier, qui est un peu le webmaster historique, entre guillemets. Il y avait deux autres personnes qui l'ont créé. Moi, je suis arrivée en 2003. Et puis, Fabrice et Yaska, pareil, sont arrivés à peu près vers ces eaux-là. Et donc, maintenant, on fonctionne à quatre. On s'est un petit peu réparti les tâches en fonction de nos spécialités, entre guillemets. On est deux couples aussi, hein, c'est pratique, chacun de notre côté, et on se voit très régulièrement parce qu'on est tous les quatre en région parisienne, donc c'est pratique. Et donc le site a eu une très très grosse période, on avait un très gros forum dans les années 2000, qui un petit peu, on l'a fermé depuis avec les réseaux sociaux qui sont arrivés, etc. Mais la grosse période d'activité, ça a été les années 2000 sans conteste.
Même si je pense que tous nos auditeurs connaissent ce qu'est le studio Ghibli, on va quand même faire un résumé assez rapide. Alors, Ghibli, ce sont deux personnes, je crois, c'est principalement Miyazaki et Takahata.
Alors, ces deux réalisateurs, effectivement, Hayao Miyazaki et Isao Takahata, alors comme leur nom l'indique, c'est un studio japonais. Et il y a un troisième personnage qui est Toshio Suzuki, qui lui est un producteur. C'est le producteur du studio, il est toujours là. Donc, ces deux animateurs, Isao Takahata est un petit peu plus âgé, hein, ils ont été animateurs au sein de studios d'animation dans les années 60-70. Isao Takahata, par exemple, on le connaît pour avoir fait la série Heidi, où Miyazaki, il a fait les premiers épisodes de Sherlock Holmes. Les gens de ma génération connaissent dans les années 80. Puis ils ont décidé de créer, en fait, à un moment donné, leur propre studio d'animation, puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver un studio qui leur donne vraiment les moyens de faire ce qu'ils voulaient. Donc c'est comme ça qu'ils se sont lancés après un film d'animation qui s'appelle Nausicaa. Leur a apporté les moyens de créer leur studio, et c'est comme ça qu'ensuite ils ont pu produire Le Château dans le ciel dans les années en 86. Et après, ils ont fait Miyazaki, on va dire, lui, c'est la voix un petit peu plus fantastique, fantasy, avec Totoro, Princesse Mononoke, Chihiro, etc. Le dernier, c'est Le Garçon et le Héron, là, qui est sorti cette année. Et puis Isao Takahata, lui, se veut dans une veine un petit peu plus réaliste, même s'il a quelques incursions. Avec Pompoko, etc. Mais il a fait le très connu Tombeau des Lucioles, qui a traumatisé toute une génération, et qui continue de le faire très très bien. Et donc voilà. Et le studio a fermé dans les années 2000, en 2014, si je ne m'abuse, et là a réouvert pour Le Garçon et le Héron, parce que Miyazaki, c'est comme un chat, il dit qu'il arrête, puis il revient. C'est comme un chat qui veut sortir et qui revient. Donc voilà, le studio il est revenu. Et reprend avec Miyazaki à nouveau.
Très jolie métaphore entre le chat et Miyazaki.
C'est pas de moi, hein, mais oui, c'est Boulet, je crois qu'il y a un auteur de BD qui parlait de ça, mais Miyazaki, c'est un chat, en fait.
D'ailleurs, tu es plutôt Miyazaki ou tu es plutôt Takahata au niveau animation ?
Alors moi, c'est difficile, hein, j'ai du mal à me prononcer parce que Miyazaki répond à... on va dire pour moi, j'aime beaucoup les films qui se passent dans des univers comme Totoro, Mononoke, etc. Puis c'est peut-être par lui que je suis entrée dans le studio Ghibli. J'aime beaucoup la place qu'il donne aux femmes en plus, etc. Mais Takahata, il a fait des purs bijoux, Tombeau des Lucioles évidemment, mais d'autres qui sont un petit peu moins connus en France, Souvenir goutte à goutte absolument fabuleux, ouais. Etc. Mais c'est plus réaliste, donc c'est plus éloigné de ce qu'on connaît de l'animation japonaise, c'est peut-être un petit peu plus adulte, un petit peu plus adulte avec toutes les guillemets que ça peut comporter, mais voilà, donc moi j'aime les deux. C'est difficile de choisir, de même que je ne sais pas quel est mon Ghibli préféré. C'est comme choisir entre mes enfants, c'est pareil,
entre son père et sa mère on ne choisit pas.
Voilà, c'est ça.
On ne choisit pas non plus.
C'est ça.
Et donc si tu es là, en fait, c'est pour parler principalement du Trône de Fer et de ce qu'on peut faire comme lien avec le studio Ghibli. Comment as-tu découvert la saga?
Alors, c'est ma sœur, je crois, en 2012, parce qu'on en était... C'était la deuxième saison, déjà, qui sortait à ce moment-là, qui m'a parlé d'une série qu'il fallait absolument que je voie. Elle m'avait dit, tu vas voir, c'est génial, ça va te plaire, etc. Donc, on a commencé à la regarder, et c'est devenu... Enfin, je crois qu'on s'est regardé les deux saisons d'affilée. Et après, il a fallu patienter, comme tout le monde. J'ai mis beaucoup de temps à passer au livre, alors... Pourquoi ? Parce que j'étais tellement attachée à la série télé et aux personnages et à ce que ça avait provoqué comme émotion qu'il a fallu que j'attende la fin de la série télé. Donc c'est au début des années, je crois que c'était en 2020-2021 que j'ai commencé les livres. Et là c'est pareil, j'ai consacré 2 mois à ne lire que ça. J'ai lu que la saga principale en revanche. De faire, mais donc voilà. Donc je suis passée d'abord par la série et j'ai mis beaucoup de temps à passer au livre. Mais je ne regrette pas. Ni l'un ni l'autre.
Et tu as un personnage préféré ou détesté ?
Alors j'ai longtemps réfléchi. C'est un peu pareil, hein. C'est comme choisir son Miyazaki préféré. Les personnages préférés, j'en ai beaucoup. J'ai aimé très très longtemps Tyrion. Enfin, quand je parle pour la série télé, hein, j'entends. Jusqu'à la saison 5, j'irai. Après, je trouve qu'une fois qu'il a été avec Daenerys, etc., il a été un petit peu plus en retrait. Voilà. J'adore le twist sur le personnage de Jaime parce que... je trouve qu'il a un changement, c'est vraiment la rédemption pour moi et j'adore ça. Et de manière générale, j'aime beaucoup le traitement des personnages dits secondaires, entre guillemets. Je suis une grosse fan de Cyr Davos, il y a Brienne que j'aime beaucoup. Oberyn, je me suis jamais remise de sa mort. Donc ça, c'est, voilà, je trouve qu'il a un traitement. Et pareil, dans les livres, je trouve que ces personnages-là, c'est ce qui donne un univers crédible. C'est surtout les personnages secondaires. Il n'y a pas vraiment de personnages secondaires, c'est ce qui est appréciable d'ailleurs.
Tous sont importants en fait.
Ah ouais, ils sont tous importants, ils ont tous un lien, ils ont tous une part dans l'histoire et c'est ce qui rend, je trouve, l'univers crédible en fait. C'est cette force-là. Et qu'il ne se soit pas manichéen non plus.
Oui.
Très intéressant.
Et justement, quand on parle de manichéisme, en détester, est-ce que tu as des gens que tu n'apprécies pas ?
Bon, alors je crois que comme tout le monde, il y a Geoffrey, je crois, Ramsay, tout ça, on peut pas les apprécier, ces personnages, c'est pas possible. Mais peut-être en dehors de ceux-là, il y a Tywin Lannister, forcément, qui est pour moi le gros méchant, affreux, épouvantable. Enfin, je trouve que ce qu'il fait à ses enfants est absolument atroce et je trouve qu'il n'a aucune humanité. Mais même dans le côté méchant, en fait, c'est... Je sais, il est vraiment tellement froid. Au moins, Ramsay et Geoffrey, ils détestent, mais ils éprouvent des choses. Tywin, j'ai l'impression qu'il n'éprouve rien. Et c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment aucune affinité avec lui. Je trouve que c'est l'égoïsme parfait. J'ai beaucoup de mal.
Ramsay et Geoffrey, ce sont des personnages qui ont des émotions. Et tu ne vois pas d'émotions chez Tywin.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui fait que c'est probablement celui, pour moi... Enfin, au moins, Ramsay et Geoffrey, on adore les détester. Tywin, pour moi, c'est vraiment le personnage inhumain.
Dans ces personnages-là, que ce soit détesté ou apprécié, il y a certains que tu pourrais voir dans des œuvres de Ghibli.
Oui, il y a des liens. Moi, je trouve qu'ils sont assez facilement... assez facilement... Bah, sur ce non-manichéisme-là, en fait... je trouve dans Princesse Mononoké un personnage comme Kushana, mea culpa. Lady Eboshi dans Mononoké, elle est hyper intéressante parce que c'est un personnage au début on déteste. Et au final, on comprend ses raisons, on comprend qu'elle veut sauver les humains, etc., etc. Enfin, les humains qu'elle protège, elle, de son clan. Et qu'elle est prête à tout. Et par exemple, Cersei, quelque part, c'est ce qu'elle fait aussi. Alors bon, même si on a du mal quand même à apprécier Cersei, mais elle a des raisons qui la motivent et qui la rendent détestable aux yeux de certains, en fait. Donc ça, je trouve qu'il y a des liens comme ça qui se font assez facilement sur ces personnages-là. Après, je pense à des personnages... Bon, Brienne, par exemple, qui est... c'est une âme pure quelque part, je trouve. Brienne, c'est un personnage très positif, je trouve. Mais on retrouve ça dans des personnages alors plutôt masculins chez Miyazaki, mais pareil dans Mononoke, le personnage masculin principal, il est un peu comme ça. Ashitaka, il a une âme pure, il est fidèle, il est loyal, etc. Donc c'est en termes de valeurs, oui, je pense qu'il y a des liens qui sont assez facilement.
D'ailleurs, en plus. Ça me fait penser à Kushana, en fait, le côté Kushana, il y a un côté Cersei, je trouve, avec le côté féminin. Enfin, méchant, gentil, c'est un peu compliqué pour le personnage de Kushana. Oui. Et justement, ça a même un lien aussi avec son frère, parce que Kushana, ça remonte à ma dernière vision de date un peu, mais je crois qu'elle a un problème au bras, ou elle a un bras en moins, ou elle a pas un...
Oui, dans Nausicaa, oui, tout à fait. Qui a un bras en moins, oui, tout à fait. En fait, oui, dans Nausicaa. Alors Nausicaa, il y a l'animé qui a été fait à partir des deux premiers tomes, et il y a le manga. Et dans le manga, il y a quelque chose qui est... En fait, c'est une fratrie de quatre. C'est la seule fille. Elle est mise de côté par son père parce que c'est une fille. Donc forcément, le lien avec Cersei se fait très très facilement. Donc effectivement, elle a ce bras en moins. Elle est mutilée entre guillemets. C'est une vraie guerrière. Elle semble sans pitié. Mais elle est moins... pareil, il y a des raisons qui la poussent. Elle lutte pour le pouvoir, elle ne supporte pas d'être mise de côté, en fait. Et le père est particulièrement atroce avec sa fratrie. En fait, ils passent leur temps à se tendre des pièges et à vouloir se tuer les uns les autres. Donc, effectivement, ça ressemble vachement au Lannister. Hein,
Donc, oui, voilà. Donc, la famille du Kushana, c'est un peu Lannister, avec le côté...
Ah oui, complètement.
De Jamie, le bras, avec le bras en main en moins, oui. Et le côté horrible du père.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et après, ouais, en dehors de ça, c'est vrai que j'ai niveau lien, personnage et autres, bah, ouais, t'as vu le héros dans Mononoké qui a un petit côté Jon Snow.
Oui, un petit peu, oui. Il y a une espèce de naïveté un peu dans le personnage, mais qui fait qu'il accomplit de grandes choses, hein. Je trouve qu'il a bah, Jon Snow, jusqu'à ce qu'il se fasse tuer, peut-être, on va dire, une première fois. Enfin, il est assez candide, il est assez naïf, il est loyal, il a vraiment des belles valeurs, en fait. Et c'est un peu ça, Ashitaka, en fait, ce qui lui permet de sauver le monde, enfin, qui fait le lien finalement entre Mononoké, les loups, la nature, etc. Et puis le monde des hommes. Donc, bah, évidemment, il y a le lien avec les loups. Ça paraît évident. Ces grands loups gigantesques dans Mononoké, on les retrouve dans le trône de fer. Ils sont là aussi présents, même s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes rôles ni les mêmes implications, mais ces personnages-là aussi, évidemment, sont là, en commun.
Bon, on en parlera après, à nouveau des liens qu'on peut trouver entre les deux univers. Est-ce que tu as une préférence niveau maison?
Alors, bon, c'est assez facile, je trouve. J'ai un porte-clés Stark. Enfin, je trouve que, enfin, évidemment, elle est loin d'être parfaite, et bon, traitement de Jon Snow au sein de la famille est un peu quand même, mais malgré tout, c'est cette loyauté et ce sens de la famille, malgré tout, malgré les dissensions, malgré les disputes, etc. Donc, au moins, c'est pas une famille, on essaye de s'entretuer, ce qui est plutôt pas mal dans cet univers. Donc, ça sera la star sans trop de difficultés.
Et niveau voyage, si tu voyageais à Westeros ou Essos, tu irais quelque part?
Alors, j'ai beaucoup de mal avec les climats extrêmes. Donc, le nord, ça va être difficile. Voilà.
Au froid.
Dorne, il fait un peu trop chaud. Donc, je trouve que le Bief, c'est plutôt pas mal. Sur le côté tempéré, fertile, au jardin, c'est pas mal. Je trouve que c'est un endroit qui a l'air assez agréable à vivre. Donc,
Qui est accueillant en fait. Il est
oui,
très
c'est ça, qui est
accueillant et.
accueillant et où on va peut-être pas mourir de faim ou de froid. C'est pas mal comme concept.
Est-ce que tu as vu la série House of the Dragons?
Oui, je l'ai vue, et d'ailleurs, là, on va la revoir parce on a revu toute la saga récemment avec ma fille, qui a 15 ans. Donc là, comme elle n'a pas encore vu House of the Dragon, on va la revoir là, puisque la saison ne va pas tarder. Oui, je l'ai vue et j'ai beaucoup aimé. Alors, parce qu'à la fois, on retrouve un univers qu'on connaît. Donc ça, c'est assez appréciable parce qu'on retrouve certains codes, certaines maisons. J'ai bien aimé le fait que ce soit pas juste avant, finalement, que ça déjoue un peu cette attente-là. Ceux qui regardaient la série télé. J'ai été surprise parce que, donc j'ai pas lu du tout moi les livres, mais j'ai bien aimé l'approche narrative où il y a des ellipses, où pareil, on nous bouscule un peu d'une autre manière. Enfin là, pareil, hein, faut s'attacher à personne, j'ai l'impression, mais j'aime bien l'approche avec des ellipses, d'autres maisons bah, dont on a un petit peu parlé dans les livres notamment. C'est plutôt sympa de les voir, je trouve. Bon, je trouve que c'est très bien filmé. Il y a des scènes. Enfin, la scène du mort, c'est la mort du roi que j'ai trouvé magnifique, bon, comme tout le monde. Hein. Voilà. Et puis de voir les dragons, la grande période de. Enfin, voilà, de les voir là, des vraies scènes de combat entre dragons, etc. Moi, j'aime bien, forcément. Ça donne quelque chose de nouveau, donc c'est appréciable.
Totalement. D'ailleurs, en parlant de dragons, est-ce qu'il y a des dragons dans les œuvres de
Oui,
Ghibli?
tout à fait. Dans le voyage de Chihiro, il y a un dragon.
Oui, simplement oui. J'avais l'image du dragon à l'occidental, mais totalement oui.
Mais en fait, oui, bah parce que c'est très différent. Les dragons dans la culture japonaise, les dragons, c'est un signe de l'eau. C'est pas du tout un signe de feu. Donc c'est plutôt positif. Hein, l'année du dragon, c'est plutôt une année normalement très importante dans la culture asiatique. Et oui, donc en fait, la symbolique est un peu différente, quoi. Dans Aku, c'est un dragon de l'eau, mais c'est pas nécessairement agressif ou c'est très différent des dragons du trône de fer qui sont plus proches de l'imagerie occidentale, on va dire, traditionnelle.
Après, avec l'imagerie occidentale du dragon plutôt associé au feu, comme ceux
Oui.
qu'on qu'on retrouve dedans, il n'y a pas de remplantation.
Non, bah en fait, regardez du côté de Goro Miyazaki, quand il a adapté les contes de Terre-Mère, où il y a un dragon. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas relu, parce que c'est le revu, parce que c'est pas... Bon, Goro Miyazaki, je suis moins fan, on va dire. C'est le fils d'Hayao Miyazaki et les contes de Terre-Mère. Alors, j'avais lu les bouquins et j'avais bien apprécié d'Ursula Le Guin. Bon, là, c'est un peu plus bancal, on va dire, comme film. Mais il y a un dragon plus occidental, celui-ci. Mais sinon, non, effectivement, c'est pas la même symbolique. La même imagerie, on va dire.
On peut dire peut-être que, de par le fait que c'est une adaptation d'un livre de fantasy occidentale, ben, je pense que c'est l'œuvre qui est peut-être la plus proche de ce qu'on peut avoir en termes de fantasy
oui, c'est
comme
ça.
Occidentale classique, en fait.
Oui, complètement. Je pense que là, c'est l'adaptation qui fait ça, qui fait que là, forcément, c'est une œuvre occidentale à l'origine, donc de fait, on est plus proche de cette image-là. Ouais.
C'est vrai que de tous les films Ghibli que j'ai pu voir, je me souviens l'avoir vu, je me souviens l'avoir apprécié, mais j'ai aucun souvenir de l'histoire.
C'est à peu près ça. C'est moi, ce qui me reste, et par rapport au bouquin, c'est en fait un mélange de deux tomes, en fait, des contes de Terre-Mère. Il croise deux vieilles. Enfin, lui fait un croisé de deux histoires. C'est Hayao Miyazaki qui était très très fan, et en fait, c'est une histoire compliquée, hein, la production des contes de Terre-Mère, parce que le pauvre Goro Miyazaki, on peut pas dire qu'il a été très aidé par son père. Mais oui, voilà. Moi, j'ai pas d'image très forte. Alors que ça m'a pas semblé très désagréable à regarder, hein. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais je l'ai revu peut-être une ou deux fois, et on va pas laisser un souvenir impérissable.
Sur la licence et tout ce qui est associé au Trône de Fer, Westeros, etc., est-ce que tu as une volonté pour la suite, en fait, que ce soit une série dérivée, que ce soit une série liée complètement à l'univers de Trône de Fer qu'on a pu voir en série ou en livre, ou même autre chose?
Déjà, j'aimerais bien la fin. J'aimerais bien la fin de la série principale. Ça serait déjà bien, plutôt qu'ils nous fassent tous les produits dérivés. J'aimerais bien qu'il la termine. Je ne sais pas si un jour ça arrivera. Je sais pas si.
Par rapport à la saison 8 ?
Non, je parle des bouquins, moi. J'aimerais bien.
Ah oui,
les livres s'arrêtent. Parce que le problème, c'est comme il est sur toutes les séries dérivées à les suivre, etc. Bon, j'espère qu'un jour on aura la suite des livres. Ça serait déjà bien.
La suite des. Enfin, la fin de la série de livres, ouais.
Ouais, ça serait cool.
Je
crois qu'on en est tous là, hein, on attend.
Voilà.
On attend tous.
Totalement. Il travaille, il nous dit qu'il travaille dessus.
Il travaille dessus, mais il fait beaucoup d'autres choses, hein, je crois que. Mais non, après, moi, je suis preneuse de tout en termes de série. Enfin, ça pourrait se passer longtemps avant ou juste après la série principale. C'est vrai que ça pourrait être sympa de savoir ce qu'ils deviennent après. Après, ce que j'ai vraiment envie de le savoir, c'est une bonne question. Je ne sais pas à quel point je veux savoir ce que vient Arya, John, etc. Mais pourquoi pas longtemps avant ou longtemps après. Moi, je suis preneuse de tout. Je trouve que c'est un univers qui est assez riche, donc c'est intéressant.
Au niveau des projets, il y a la saison 2 de House of Dragons qui va sortir. Il y a le projet d'adaptation des chroniques d'un chevalier errant qui se passe entre House et... l'œuvre principale qu'on connaît, Game of Thrones, série, et The Song of Ice and Fire en livre. Oui. Et il y a également toujours y a un projet qui est encore en travail sur la conquête d'Aegon, donc en fait ce qui se passe longtemps encore avant. C'est encore une sorte de préquel de la préquel, même si on sait pas vraiment, c'est pas vraiment une préquel en elle-même. Et voilà. Donc, il y a des projets encore dessus.
Bah, tant mieux.
Justement, en dehors de cette licence, est-ce que tu connais d'autres livres qui a pu être écrit par Matin ?
Alors, non. Enfin, j'avoue, je lis beaucoup de tout parce que je suis prof de français. Alors, je suis amenée à beaucoup lire pour mes élèves, beaucoup de jeunesse aussi. Donc, non, j'en connais pas forcément d'autres. J'essaye de lire. De découvrir. Je suis du genre à lire à lire énormément sur un auteur et puis après, hop, je passe à autre chose. Mais pourquoi pas? Enfin, moi, je suis preneuse de tout conseil, en tout cas, sur les questions.
Après, c'est ce qu'il a pu écrire. Il a pas mal écrit dans un peu de fantastique. Il a un univers de science-fiction qui sont surtout des histoires indépendantes dans le même univers, mais principalement indépendantes. Et après, voilà, il avait travaillé. Il travaillait aussi en tant que auteur, mais surtout. Il y a une anthologie de livres qui associe un peu fantastique et super-héros, et qui est encore actuel d'ailleurs, parce que voilà. Et c'est une anthologie de livres avec plusieurs auteurs sur lesquels il travaille également.
Il n'a pas fait de jeunesse, lui, hein, je crois pas, non. Il n'a pas fait de littérature jeunesse visible par des collégiens, hein, je crois pas.
Non, je ne crois pas.
C'est pas trop son style.
J'ai beau réfléchir. Il y a des livres ou des nouvelles, parce qu'il a écrit beaucoup de nouvelles qui peuvent être lues, je pense, plus jeunes que peut l'être éventuellement le temps de faire. Mais estampillé jeunesse, je
ne je crois pas.
Peux pas souvenir d'avoir quelque chose qui est réellement estampillé jeunesse. Et je sais pas, ça serait vraiment dans son univers de faire
Je suis pas sûr, parce qu'il y a une espèce de violence quand même dans les rapports humains, on va dire, dans ce qu'il traite. Je suis pas sûr.
Ouais, peut-être. Il y a pas de la violence dans toutes ces nouvelles, mais il y a toujours un questionnement sur le rapport de force qui n'est peut-être pas automatiquement facilement adaptable en fait.
Oui, et puis il y a quand même un style qui est pas forcément facile à appréhender pour des plus jeunes, parce que c'est quand même il y a un langage un peu médiéval, etc. Donc c'est pas évident. En plus, là, alors ce qui est très compliqué pour des élèves, c'est le côté polyphonique, hein. Le roman choral, ça c'est très compliqué. Des élèves, ils ont du mal.
Bah, justement, le côté très médiéval est plus la version française, la version originale anglophone, ouais. Et moins poulé.
Bah, c'est les Français. C'est bien. Comme gagner la guerre, tout ça, comme ce bouquin-là.
Ah, voilà, là, l'auteur est français, je me trompe.
Oui, là, il est français, parce que je dis, on aime bien ça, mettre des médiévaux, etc. Oui, tout à fait.
Bah, justement, tu cites Gagner la guerre. Est-ce que tu penses que Martine a eu une influence sur la fantaisie actuelle ou même passée?
Alors, je suis pas une grande spécialiste de fantasy, mais Gagner la guerre, notamment, quand je l'ai lu, ça m'y a fait penser immédiatement, parce que il y a cet aspect. En fait, il y a un côté fantasy, mais finalement dans un monde qui nous est très compréhensible. Enfin, c'est pas le Seigneur des Anneaux, etc., où on est vraiment plongé ailleurs. Là, on a quand même des liens qui se font. Alors, même si c'est plus la Renaissance que le Moyen-Âge. Et puis, je trouve que là, pour avoir lu pas mal de... Alors, dans la fantasy plus jeunesse, mais effectivement, ce côté polyphonique, roman choral, arrive de plus en plus. Et j'aime bien, d'ailleurs... Alors, je ne sais pas à quel point c'est Martine qui fait que ça en aboutit à ça, mais ça, j'aime bien parce que ça éclate un peu la narration et ça permet d'avoir le point de vue d'un peu tous les personnages. Et je trouve ça très intéressant. Il y a David Gemmell aussi que j'ai lu récemment. Alors bon, c'est un peu c'est les années 2000, 2010. Je sais pas à quel point ils se sont influencés l'un l'autre, mais j'ai beaucoup aimé dans 3 aussi, où le lion de Macédoine. Donc 3, c'est une revisite de l'univers en fait. Alors là, pour le coup, c'est l'Antiquité, mais il y a un peu cette écriture. Concrète, réaliste, où en fait on y croit. C'est des univers auxquels on croit, je trouve, assez fort et qu'on retrouve dans le Trône de Fer. Il y a un aspect un peu historique qui est sympa, quoi.
Et Ghibli, tu penses que ça a eu une influence sur la fantaisie, que ce soit la fantaisie qu'il peut y avoir japonaise, même si je n'ai pas trop connaissance de ce côté-là, ou la fantaisie occidentale?
Alors je sais pas. Alors je sais que dans l'univers de la BD franco-belge, etc. Parce que nous on avait quelqu'un qui s'appelle Loïc Clément, qui est d'ailleurs auteur de BD maintenant, mais à l'époque il l'était pas encore, et il faisait plein d'interviews d'auteurs de BD. Et dans la BD, beaucoup s'en revendiquent en fait. Ils disent que Miyazaki, enfin plus Miyazaki de Takahata hein, d'ailleurs, mais il y en a énormément qui s'en réclament en fait. Alors plus ou moins dans leur univers. Je parlais de Boulet tout à l'heure, l'auteur de BD, il en met régulièrement dans ses BD. Il y a un petit Totoro, des choses comme ça, etc. Après, je trouve que dans l'animation, peut-être maintenant il y a une espèce de globalisation de l'animation qui fait qu'il y a des thèmes qui se retrouvent, je sais pas, même dans des Disney ou des Pixar. Le refus d'un manichéisme maintenant chez Disney, on a quand même des personnages un peu moins tranchés, et chez Pixar, bon, ça a toujours été le cas, mais par exemple, Pixar, il y a toujours eu des liens assez forts avec le studio Ghibli, par exemple. Et Studio Ghibli, pareil, ils ont accueilli le Michel Oslo qui a fait Kirikou, etc. Donc il y a une espèce quand même d'influence, je sais pas à quel point, mais effectivement d'une animation qui prend du recul sur le côté très manichéen et qui s'adresse à tous aussi. C'est pas que pour les enfants, ça s'ouvre de plus en plus, je trouve.
Et justement, quand on parle des liens que peuvent avoir le Trône de Fer et Ghibli, c'est vrai que ça, moi, d'un point de vue de lecteur d'un côté et de personnes ayant vu ou même lu, parce qu'il y a eu quand même des mangas qui ont été faits par Miyazaki, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment eu une influence directe d'un côté comme de l'autre. Par contre, il y a quand même des liens qu'on peut faire sur des thèmes que l'un et l'autre ont utilisé et qui sont très proches, en fait.
Oui, mais je pense que c'est en fait, il représente bien notre époque, je pense, le Trône de Fer ou Ghibli. Donc en fait, il y a des choses qu'on retrouve, les personnages non manichéens, je pense que ça parle, le public a envie de ça aussi, c'est-à-dire que ce soit pas forcément le super méchant, la super méchante, etc., ou le super gentil, avoir des personnages auxquels finalement on peut plus facilement s'identifier aussi, hein, nous en tant que spectateurs ou de lecteurs. Le rôle de la femme aussi, hein, dans les... Bon, alors, je sais que Martine a été critiquée pour certaines scènes, etc., vis-à-vis des femmes, parce que il y a 2-3 scènes où c'est pas très rigolo au début pour un certain nombre de personnages féminins, mais au final elles prennent une ampleur. Enfin, Sansa, je trouve que c'est pareil, c'est un personnage qui est extraordinaire dans son évolution. Et Miyazaki, il y a ça tout le temps. Des personnages féminins forts, on les retrouve aussi tout le temps dans son œuvre. Et probablement parce que voilà, la société, elle évolue et qu'en plus, je trouve que la fantasy, avant c'était un univers, j'ai l'impression. Enfin, moi, je sais pas, quand j'étais ado, c'était beaucoup les garçons qui lisaient, etc. J'étais un peu perdu parmi tous ces gens à lire, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, par exemple, à l'époque. Et maintenant, en fait, tout le monde regarde de la fantasy. C'est plus aussi, j'ai l'impression, genré qu'avant. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des liens comme ça qui se fassent entre les deux. Bon, alors, Miyazaki, évidemment, il y a cette dimension écologique qu'on retrouve pas nécessairement. On retrouve la notion le besoin d'un équilibre, quand même. Dans les deux œuvres, je trouve. C'est-à-dire que dans le Trône de Fer, il y a cette menace quand même avec les marcheurs, etc. Il y a quelque chose quand même du déséquilibre potentiel du monde, de l'humanité qui s'entre-déchire, alors qu'il y a un danger plus grand qu'on peut retrouver aussi un peu dans l'œuvre de Miyazaki. Je pense, voilà, à Mononoke, évidemment, mais aussi le château ambulant, où il y a quand même une guerre, des gens qui s'entre-déchirent, etc., etc. C'est pas étonnant que ça se recoupe. On est dans un monde aussi où on a plus conscience des guerres par les médias, etc., etc. Donc on se retrouve peut-être sur des thématiques communes, parce que ça nous soucie tout simplement tous, quoi.
Oui, tellement, que ce soit le manichéisme, que ce soit le rôle des femmes, c'est des thèmes qui sont pas seulement ceux de Miyazaki ou de Takahata d'un côté et de Martine de l'autre, en fait. C'est un peu l'ambiance du monde, et tant mieux, parce que c'est des choses qui sont intéressantes, surtout l'amélioration de la place de la femme dans les œuvres.
Oui, tout à fait. Je pense que là-dessus, alors sans sombrer non plus dans le côté inverse, hein, c'est-à-dire des fois... Enfin, j'ai essayé de lire 2-3 trucs de fantasy. Il y a beaucoup de romances, ça me tombe un peu des mains, je dois avouer, avec des personnages féminins qui finalement tombent amoureuses du bad guy, etc. Bon, ce qui est appréciable dans Ghibli ou dans Martine, c'est qu'il n'y a pas ça.
C'est pas fait au chausse-pied, voilà.
C'est ça.
C'est fait de façon naturelle.
En fait, ce sont des personnages. C'est pas le côté c'est un garçon ou c'est une fille. Ce sont des personnages à part entière, avec leurs propres motivations. Et ce qui est intéressant, c'est que là... Il y en a de part et d'autre, ça s'équilibre assez naturellement.
En point naturel, il y a également la place des animaux, que ce soit dans le côté Mononoke avec Moro, ou la louve, le sanglier, le cerf, parce que la forêt a quand même une image, l'une des images est un cerf.
Oui.
Et donc c'est d'un côté, et ce sont les animaux qu'on retrouve aussi dans les œuvres de Martine, en fait, avec ouais. le loup des Stark, le cerf des Baratheon, et puis le sanglier qui n'a pas de maison, enfin, qui n'a pas de maison principale qui le reprend, mais qui a une place malheureusement importante dans l'œuvre, vu qu'il a. C'est le sanglier qui tue Robert Baratheon.
Tout à fait, oui. Chez Miyazaki, ça s'explique facilement. Hein, il est japonais et là-bas, il y a la religion qui est le shintoïsme et finalement, il y a un esprit chez les animaux, par rapport au trône de fer, chez Miyazaki, les animaux, par exemple, dans Mononoke, parlent, sont des divinités, en fait. Je sais pas si dans le trône de fer les loups notamment je sais pas si c'est à ce point là explicite, mais évidemment là on est dans l'imagerie plus blason médiéval avec des animaux qui un peu des animaux totems etc. Le loup forcément c'est assez commun dans l'imagerie hein. Je pense aussi ce côté d'un animal assez noble qui résiste envers et contre tout et qu'on retrouve finalement en Orient et en Occident. Les deux
je pense que le loup est important pour l'auteur, vu qu'en plus il fait adopter Ned Stark lors de la découverte des louveteaux. On fait adopter à chaque enfant ils ont une place. Voilà. Alors chaque enfant Stark a son loup et chaque loup a on retire la caractéristique du personnage au loup en fait. Et le côté. Oui, le côté Lady qui était même si on parle très très peu des loups, on les voit très peu en eux-mêmes, on a l'impression quand même que leur caractère s'associe à l'enfant à qui ils sont associés en fait.
Ouais, tout à fait. Mais ceci dit, oui, mais c'est pas étonnant parce que le loup c'est la meute, c'est quand même un fonctionnement qui nous parle peut-être à nous aussi hein, en termes de symbolique. Et qu'on retrouve aussi donc chez Miyazaki avec ces loups qui effectivement se défendent, qui se protègent les uns les autres et qui sont en même temps capables d'une forme d'humanité puisqu'ils adoptent Mononoke au final qui est quand même humaine à la base et donc je trouve qu'il y a ce lien très fort entre l'homme et loup qu'on retrouve bien dans le Trône de Fer finalement c'est pareil hein, dans Mononoke c'est pas les personnages centraux mais ils sont importants. Ils sont importants parce que c'est un peu une trace de notre animalité, finalement, peut-être. Ouf.
Un lien qu'on peut faire également entre les deux œuvres, c'est quand même le côté lever du voile magique, en fait. Quand on commence le Trône de Fer, en fait, la magie n'est pas présente. Alors bon, si on enlève évidemment le chapitre d'intro qu'il a parle réellement de mort-vivant, sinon, le monde est presque débarrassé de magie et petit à petit, du fantastique arrive dans l'œuvre. Et donc, les enfants de la forêt, les autres, les dragons, etc. Et il y a un petit peu ce côté-là dans les œuvres de Ghibli, même dans le tout récent qu'il peut y avoir avec c'est un monde qui est pas magique, il n'y a pas voilà, et où en fait la magie s'insinue. Dans l'œuvre du tapis, en fait.
Oui, c'est vrai que y a de ça. Hein. Dans Ghibli, il y a ce monde en fait, qui existe, qui est un monde des fois à côté, qui est un monde d'esprit auquel on peut accéder finalement, mais il faut une certaine. Faut être un personnage un peu exceptionnel pour rentrer dans ce monde-là, comme Chihiro, par exemple, je pense, ou dans Le Garçon et le Héron. Où finalement on bascule vers un autre univers, mais y a ce monde magique qui peut être lointain, où on est complètement dedans, comme dans le Château Ambulant, où là c'est vraiment un fonctionnement à part entière, même Kiki la petite sorcière, hein, c'est un univers qui est très finalement réaliste, avec une pointe de magie. Mais disons que il y a un univers fantastique, magique, etc., qui peut être, mais qui finalement cache souvent un déséquilibre, hormis Totoro peut-être et Kiki, où c'est quand même très gentil en termes de conflits, etc. Ça reste des drames, on va dire, des mini-drames personnels. Mais il y a quelque chose qui dépasse les personnages dans ces films-là, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des trahisons, etc. Et c'est ce qui fait que ces univers fonctionnent bien, comme dans le Trône de Fer. C'est qu'il y a de la magie, certes, il y a un côté qui nous permet, notre imagination, vraiment adhérer aux propos, mais il y a ce monde dans lequel on peut se reconnaître, finalement, des guerres, ouais. Des conflits.
Ouais. Et souvent, les guerres et les conflits, c'est pas automatiquement l'un contre l'autre, c'est une sorte de maestrum de détestation d'un côté, de haine d'un côté, qui s'explique avec des fois des camps qui sont tiers ou même des personnes qui sont innocentes, qui sont prises entre deux feux. Voilà, c'est pas.
Oui, oui, oui. Mais c'est qu'on retrouve, dans Nausicaa, par exemple, dans le manga, c'est exactement ça. C'est des peuples qui s'entretuent, des fois pour des raisons ancestrales, on ne sait même plus trop pourquoi au final. C'est parce qu'on est différent, c'est parce qu'on veut le pouvoir, c'est. Voilà. Et derrière tout ça, il y a cet univers où il y a des enfants de la forêt aussi, d'ailleurs, dans le manga Zika. Le manga, il y a des enfants de la forêt qui protègent finalement le sort de l'humanité. Il y a une princesse qui parle aux vers et qui les protège et qui grimpe dessus, ce qui n'est pas sans rappeler Daenerys et les dragons. C'est cette espèce de magie et en même temps de monde extrêmement cruel. Ou finalement, est-ce qu'il y a une rédemption ou pas pour les personnages, on ne sait pas trop. On ne sait pas quel sera leur avenir non plus. Les fins sont assez libres chez Ghibli, et ça, on retrouve aussi dans le Trône de Fer, enfin, je pense à la série télé. On est libre d'imaginer ce qu'on veut à la fin.
Oui.
Ils deviennent ce qu'ils veulent. Et Miyazaki fait ça systématiquement. On est libre de Mononoke, d'imaginer ce qui se passe après. On va pas nous dire ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants. C'est pas le style de la maison du tout. On est libre en tant que spectateur d'imaginer la suite. Enfin, ça parie un peu sur l'intelligence des gens, en fait, du spectateur.
Après, il y a des traits qui sont pas communs à eux deux. En fait, c'est comme dans beaucoup de romans ou dans films, les personnages sont des adolescents ou des adolescentes. Et en fait, il y a un passage au monde adulte. Et en fait, c'est quelque chose qu'on trouve chez eux comme chez plein d'autres, mais qui est particulièrement fort.
Il y a un passage quand même des fois un peu violent entre une enfance où on est un peu protégé au sein de sa famille, etc. Alors, bon, évidemment, il y a Arya et Sansa qui en sont des exemples frappants dans le Trône de Fer qui basculent d'un coup dans un univers d'adultes qui est quand même effroyable pour elles et qui est d'une violence inouïe. Alors, c'est pas aussi fort, mais bon, dans Chihiro, c'est quand même une petite fille qui fait juste un déménagement avec ses parents. Ses parents, il y a cette scène où ils sont transformés en cochons. Il y a plein d'enfants qui sont traumatisés par cette scène-là parce que c'est extrêmement violent. Et qui va devoir les sauver, qui est propulsée dans un monde qu'elle ne connaît pas, où il va falloir qu'elle se mette, elle devient une esclave, etc. Alors, le ton est plus léger que ce qui arrive à Arya et à Sansa, mais c'est assez dur. Il y a Kiki, évidemment, la petite sorcière, où elle est. Pour devenir une sorcière, faut qu'elle parte. Elle quitte ses parents, à l'âge de 13 ans. Hein, c'est symbolique. C'est ce passage de l'enfance à l'adolescence, l'âge adulte, on va dire, qui est pas évident. Il y a beaucoup d'adolescents chez Miyazaki. On retrouve beaucoup parce que peut-être l'adolescence aussi, c'est toutes les promesses. C'est le moment où on s'affirme soi et où effectivement on est confronté au côté épouvantable du monde des adultes et où on se cherche. Et c'est finalement le film ou le livre c'est l'auteur qui va nous offrir cette vision-là d'un âge adulte où on peut s'affirmer tel qu'on est. Et par exemple, Sansa, c'est ça. Au début, elle est insupportable. On a envie de la gifler, ça serait peut-être un peu violent, mais Sansa est insupportable au début et au final, elle devient un personnage qui est extrêmement fort. Mais pour ça, il faut qu'elle subisse un certain nombre d'épreuves assez. C'est le voyage initiatique qu'on retrouve dans les deux.
Pour toi, quelle est l'œuvre qui est la plus proche, l'œuvre de Ghibli, qui est la plus proche de l'univers du Trône de Fer, en fait?
Moi, c'est vrai sachant que j'avais participé à l'émission, je réfléchissais beaucoup à ça. C'est vrai que Nausicaa, le manga, ou même le film. Hein. Alors, Nausicaa s'est inspiré lui-même de Dune, d'Herbert. Donc, c'est un peu des... C'est un monde qui est à la fois la terre, à la fois pas la terre, on ne sait pas trop, où il y a effectivement cette lutte de pouvoir entre différents peuples et cette menace qui est extérieure. Alors là, c'est pas les marcheurs, mais c'est un désert qui est en train de prendre le pas sur l'humanité et qui nous menace. et cette princesse au milieu de tout ça qui essaye, elle non pas d'arriver au pouvoir, mais en tout cas qui parle aux vers, qui les cheveux, enfin des vers, c'est des énormes vers, les omous, un peu. Enfin, je dis ça parce que j'ai vu Dune le deuxième hier. Donc. Je parle de vers, mais non, c'est les omous qui sont cette espèce d'énorme vers carapace, enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, d'insectes géants en tout cas, qui arrivent alors à parler, les chevaucher, qui parlent aussi, il y a des armes de destruction qui sont vivantes, donc qui ne sont pas sans évoquer les dragons, et voilà, et des familles qui s'entre-déchirent, qui se trahissent, etc. Donc, bon, alors, c'est un manga, il fait 7 tomes, et il a été écrit en tout 82 et 1994. Donc voilà. Et après, juste après ça, il a fait Mononoke. Et c'est pas pour rien que bah, ma réponse en termes d'animation, ça serait probablement Princesse Mononoke avec bah, pareil, un monde qui est en évolution, un monde alors qui est menacé directement, mais là par l'homme, et une princesse qui parle aux animaux, qui voilà, qui est. Donc, c'est un univers qui est assez proche parce qu'il est aussi un peu médiéval, je pense. Et on retrouve les deux. Voilà, donc, ça serait ces deux œuvres-là qui me parlent le plus. Qui, pour moi, ressemblent le plus au Trône de Fer. En tout cas, avec des thématiques communes assez fortes.
S'il y a une question qui revient assez souvent pour les deux auteurs, on va principalement parler de Hayao Miyazaki parce que malheureusement. Monsieur Takahata est décédé. Mais voilà, c'est la question de la succession. Donc, souvent, il y a souvent le. Alors, qui sera le prochain Miyazaki? Qui sera le prochain. Il y a plein de réalisateurs japonais qui ont eu ces questions-là. Et il y a eu moins, mais ça a quand même été le cas. Qui sera le prochain Gérard Martin? Alors, encore une fois, Gérard Martin, pour ses œuvres à lui, ne souhaite pas être remplacé, etc. Il considère que bah, chacun doit faire son œuvre et je crois que c'est également un peu le même point de vue qu'a Miyazaki, mais c'est toujours intéressant en tant que dans le fandom de dire qui est le plus proche de tel auteur.
Bah, ça fait un bout de temps qu'on dit que Mamoru Soda, qui est celui qui a fait Les Enfants Loups, Summer Wars, etc. Alors, on dit souvent c'est le nouveau Miyazaki parce que bah, tout simplement déjà ses films marchent bien, il y a un univers un peu fantastique, tout ça, etc. Voilà. Bon, pourtant c'est très différent en termes de réalisation. Mais moi je pense que alors voilà, Miyazaki a fait croire pendant très longtemps qu'il voulait un successeur pour reprendre le studio. À un moment donné, Suzuki, qui est le producteur, a poussé Gorō Miyazaki un peu sur le devant de la scène. Ça a été un échec total. Et je suis pas sûre de toute façon qu'il faille être le nouveau Miyazaki ou le nouveau Martin. Quoi. Enfin, ce serait un peu inquiétant d'être le. Enfin, c'est pas très intéressant leur production, je trouve. Donc, je souhaite futur réalisateur ou futur écrivain d'avoir voilà la même carrière et la même réussite, mais voilà de trouver en tout cas les thématiques qui plairont en 2020, 2030, 2040. Mais pour Ghibli, je pense que ça mourra avec Hayao Miyazaki, hein, qui est tout jeune. Mais qui, de toute façon, là, a plus ou moins dit qu'il arrêterait à sa mort. Enfin, il nous a fait croire pendant très longtemps qu'il prenait sa retraite. Ça fait 20 ans qu'il nous dit à chaque fois que c'est fini. Bon, là, ça y est, hein, il n'a pas dit qu'il partait. En substance, il a avoué lui-même qu'il dessinerait jusqu'à sa mort. Mais bon, il y a effectivement le studio Ponyok où il y a beaucoup d'anciens du studio Ghibli qui se sont mis dedans. Et quand le studio Ghibli a fermé il y a 10 ans... mais à ce jour, alors effectivement, quand on les regarde, ça ressemble beaucoup à du Ghibli, mais pour le moment, ça n'arrive pas. En fait, c'est des univers qui sont beaucoup trop liés à leur créateur pour qu'ils soient repris. Ouais. C'est vraiment la vision de quelqu'un, donc je pense que c'est difficile de faire pareil.
Après, il y a des livres qu'on peut lire en aimant ce qu'a fait vraiment Martin. Donc là, après, il y a des réponses qui sont assez facile dans ce sens-là, ouais.
Mais oui, donc oui, voilà. Donc bon, c'est vrai que ça devient un peu à la mode. Mais bon, Miyazaki, on l'a présenté pendant des années en France comme le nouveau Disney japonais. Hein. Je pense que c'est aussi juste des repères. Ça prouve aussi leur importance. Hein. Si ça devient des références à ce point-là, c'est qu'ils sont passés dans la culture populaire. Donc c'est plutôt positif. Tout le monde connaît Maintenant, le studio Ghibli, ben voilà, moi je vois j'ai des élèves bon, entre 11 et 15 ans, ils connaissent. En fait, ils savent pas forcément que c'est studio Ghibli, mais c'est passé dans la culture populaire, de même que le Trône de Fer. Finalement, c'est... Là, je sais pas, je fais du théâtre aussi à côté de ça. C'est une pièce complètement contemporaine et on compare le personnage, ça s'appelle Big Mother, et on parle de données, etc., etc. Et il compare le personnage principal à un Targaryen. Donc ça montre, enfin, je veux dire, alors que c'est du théâtre français contemporain, etc. Et la référence, elle passe auprès de tout le monde. Quoi. Tout le monde sait ce que c'est qu'un Targaryen. Je trouve ça.
Il y a des stéréotypes qui passent par l'image.
Ouais.
En fait.
C'est ça. Donc c'est passé dans la culture commune et populaire. Donc c'est bien. C'est plutôt bien.
Eh bien, on s'approche de la fin. Est-ce que tu as des recommandations de lecture, de visionnage? Même ça peut ne pas être lié à la fantasy, c'est lié à ce que toi tu aimes et ce que tu veux partager.
Alors bon, moi je lis beaucoup de choses, voilà. Moi j'ai découvert, donc là récemment il y a David Gemmell, donc j'ai découvert cet été, enfin, l'été dernier, que j'ai beaucoup aimé, un univers fantasy, on va dire. Mais j'ai aussi Madeleine Miller qui a fait Le Chant d'Achille et Circé. Alors là c'est plus... C'est un petit peu différent. Le Chant d'Achille, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est excessivement bien écrit. C'est une spécialiste, elle est prof de lettres classiques en université aux États-Unis. Mais c'est des personnages extrêmement forts. Et bon, alors c'est un peu, c'est féministe, Madeleine Miller. Hein. C'est des personnages Circé notamment. Ça retravaille complètement le mythe et c'est très intéressant par rapport à Ulysse et ce qu'on connaît, etc. Bah là, je sors. Donc voilà, hier, je suis allé voir Dune, le deuxième volet. Et, bon, moi, j'avais lu, je crois que j'ai lu 3 tomes ou 4 tomes de Dune. Voilà, bah, c'est ce que j'aime dans une adaptation, c'est que c'est, y a une vision d'un réalisateur. Il y a ce qu'il faut de trahison pour que ça passe sur grand écran. Mais moi, j'ai été complètement scotché par certaines scènes. Voilà. Pourtant, je suis pas une grande fan de Timothée Chalamet, tout ça. J'y pensais pas forcément dans le rôle de Paul Atreides, mais je trouve que c'est très très bien mis en scène et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et donc voilà. Puis là, j'ai découvert ouais, avec ma fille aînée, elle m'apprend des trucs aussi. The Jones, voilà, Arcane, voilà que j'ai découvert. C'est une série animée qui est sur Netflix. Arcane, c'est très très bien. Oui, mais aussi. Dans un univers plus science-fiction, là, plus SF, plus dystopique. C'est vraiment intéressant.
C'est marrant, bah j'ai beaucoup de mes invités ont des recommandations qui se ressemblent beaucoup. On a Circé qui avait déjà été recommandé par une autre invitée. Arcane qui avait été recommandé tout récemment, c'était en janvier. Donc là, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a des œuvres qui sont importantes pour la génération actuelle et qui... Les gens se retrouvent dessus et que les recommandations se ressemblent. Mais c'est bien, c'est cool de se dire que y a des œuvres qui deviennent fondatrices en fait.
Tout à fait.
Au niveau actualité, bon, on sait que le studio Ghibli n'a pas une très grande actualité. Comme tu l'as très bien dit, il n'est pas parti à la retraite, mais il n'y a actuellement, à notre connaissance, pas d'autres films en cours de production.
Mais non, il y a quand même un peu d'actualité.
Il l'a mis 10 ans. Oui, mais alors là, tu parles dans un podcast où
Oui, non, c'est vrai que c'est pareil, le temps. Voilà, bon, c'est. Non, c'est sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'en plus, le dernier qu'il a fait, Miyazaki, il n'y a vraiment rien qu'à filtrer jusqu'au jour J de la première, ce qui a été très particulier et puis pas facile pour nous, parce que il y a eu une absence totale et ça a été volontaire de publicité. En partant du principe que, comme c'était le dernier Miyazaki, les gens viendraient. Donc il y a eu. Il n'y a rien eu, ni au Japon, ni dans le monde. On ne savait absolument pas quel était le projet. Donc ça, c'était voté.
Et les gens sont venus.
Et ça a fonctionné. Et en France, ça a été le plus gros succès. Hein. Ouais. Bizarrement, parce qu'il n'est pas facile. Il n'est pas facile d'accès et ce n'est pas forcément le plus évident.
Il est clivant.
Il est très différent. Bah, c'est bon, comme on dit, c'est l'œuvre de la maturité. Non, c'est pas. Mais c'est... Bon, voilà, c'est... C'est pas forcément le plus facile, c'est pas forcément le plus épique, etc. Bon, ceci dit, celui d'avant, Le Vent se lève, pareil. Hein. Mais ça prouve bien que voilà, les gens viennent pour un nom maintenant. Ils viennent, c'est le dernier Miyazaki. Et dans la salle où on était, il y avait de tout âge. Donc, en fait.
C'est l'œuvre de maturité, enfin, c'est l'œuvre de la maturité, mais
la très grande maturité.
Qui voulait pour son petit-fils. Non, le type, je ne sais pas quel âge il a, mais pour qu'il comprenne toutes les intrications du...
Alors, ceci étant dit, moi, j'y suis allée avec mon... On est allé à Projo Press avec mon dernier qui a 8 ans. Il est allé parce qu'on n'avait pas le choix, on n'avait personne pour le garder. Et étonnamment, bon, alors, je sais bien qu'il a grandi là-dedans, hein, mais il a compris pas mal le truc. Alors évidemment, pas tout, hein, mais je pense qu'après, Miyazaki, ça peut être vu à différents niveaux, quoi. Il ne faut pas attendre, évidemment, la même compréhension, hein, mais ça l'a assez fasciné.
Et c'est cool, en fait, de pouvoir avoir des lectures selon l'âge et tout et tout.
Pour Game of Thrones, il a fallu qu'on attende un peu, quand même, pour la grande. Hein.
Ma fille, elle connaît, enfin, comme histoire, elle sait que y a cette histoire-là, mais elle a ni vu ni lu pour le moment.
Ouais, non. Moi, c'est parce que j'ai une grande, quoi. Elle a 16 ans, donc c'est sûr.
Là, c'est l'âge, ouais.
En première, elle a adoré. Hein. Elle a adoré, hein. Le Trône de Fer. C'est... Bon, elle n'est pas trop dans la lecture, mais dans, en termes de série, elle a trouvé que c'était extraordinaire. Adoré. Bien, c'est positif.
Pour justement, pour revenir sur le côté actualité, en fait, il n'y a pas de film. Non. Le dernier est sorti il y a maintenant 6 mois, non ? Un peu moins.
Oui, enfin, en France, il est sorti en novembre, ouais. Au Japon, c'était en juillet. Donc.
Mais il y a un parc, si je ne trompe pas. Il y a un parc Ghibli.
Oui, ça fait... c'est pareil, hein. Lui, ça fait longtemps qu'il est en cours de route. Alors, c'est un projet un peu particulier parce qu'il voulait créer un parc Ghibli. Alors, il y a déjà un musée qui a tout coup... Ghibli, voilà, mais là c'est un parc, mais c'est un peu un concept étrange, hein. C'est pas Disneyland, hein. Il n'y a pas de roller coaster, de Grand 8, je ne sais quoi, partout. C'est plus des espèces de scénettes, de recréations, d'univers, etc. Et la particularité, c'est qu'ils n'ont pas voulu créer un parc ex nihilo parce qu'il y avait une volonté un peu écolo. Donc ils ont repris le Nagano, là où il y avait eu les Jeux Olympiques dans les années 80. Si je ne m'abuse. Donc, ils ont repris la patinoire, ils ont repris des choses comme ça et ils recréent des univers. Donc, là, le dernier. Et ils le font par morceaux. Donc, là, il y a le château ambulant qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, on peut visiter le château ambulant. Alors, on rentre dedans, etc. Au fur et à mesure, on découvre des endroits comme ça. Pour l'instant, voilà. C'est un projet au long cours, en fait. On suit ça sur le site régulièrement dès qu'on a des nouvelles images, etc. C'est le dernier, on va dire, c'est le gros projet qui est d'ailleurs retenu, si je ne m'abuse, par Gorō Miyazaki qui s'en occupe et qui est à la tête du musée de Ghibli.
Merci Emily, je te remercie grandement d'être venue sur le mur.
Merci à vous de m'avoir invité.
Où est-ce qu'on peut retrouver toi et le site ?
Le site, donc c'est boutaconnexion.net. On est sur les réseaux sociaux et on a un compte Facebook, un compte Twitter. Et puis, non, je suis pas sûre qu'on ait Insta. La fille est très concernée. Bon, Instagram, ça se prête pas. Hein. Nous, on a un site et on a un site à l'ancienne avec beaucoup de contenu et beaucoup de textes. Donc, on peut nous retrouver facilement là-dessus. On n'est pas très YouTube, podcast, etc. On aimerait bien. Peut-être un jour, mais pas pour le moment.
Ouais, vous aviez un forum.
Oui, on l'a fermé il y a presque 10 ans maintenant. On a eu beaucoup beaucoup de monde à un moment donné. Ça a été un grand lieu d'échange. On se faisait des rencontres régulièrement, des restos, etc. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés. Et c'est différent, on va dire. Il n'y a plus l'idée autant de communauté. Puis ça s'est tellement démocratisé aussi que ça s'est un peu dilué, je pense. Puis l'époque où on pouvait écrire à n'importe quelle heure de la nuit des pages entières d'analyse et de théories diverses et variées, j'ai l'impression que c'est un monde qui a... Enfin, c'est bien, j'ai pu comprendre que chez vous, ça marchait encore, mais nous, c'est voilà, il y a moins.
Ça marche encore, mais on a encore tout récemment, donc là, on enregistre, on est milieu mi-mars, même si l'épisode va ressortir en avril, mais c'est quand même, ça reste récent à la date d'enregistrement, mais on a maintenant un channel Discord où il y a concrètement des discussions de la même façon qu'on a des discussions sur le forum, mais la forme est un peu différente. Et puis, on sait utiliser que ce soit les podcasts ou les Twitch et tout. On est assez actifs, mais c'est pour donner C'est pour donner une vision un peu différente du trône de fer que ce que l'on peut amener sur notre encyclopédie, etc. C'est en temps d'être assez diversifié. Après, on a également l'avantage d'avoir une licence qui a une actualité qui reste encore très cool.
Oui, c'est sûr que... Oui, c'est sûr que là, il y a une actualité que nous, on n'a plus autant. Hein. Bon, ceci dit, tant mieux, parce que moi, je suis hyper admiratif des sites qui continuent de qui s'adaptent, etc. Nous, on est un peu des dinosaures, on a plus de 3 enfants, tout ça, on n'a plus trop le temps. Mais je suis hyper admiratif de voir, effectivement... qu'il y a encore cette forme d'internet-là, quoi, je trouve, qui est vachement positive, de gens qui donnent de leur temps pour une passion, quoi, pas pour vendre quelque chose. Quoi. C'est bien qu'il reste encore quelques personnes motivées comme ça.
On a une belle équipe à la garde de nuit. Donc, chacun, pareil, un peu comme je vous disais, on a chacun nos particularités, nos préférences et tout, et on tente de se compléter les uns les autres. C'est ça que, encore. Même si j'en fais un peu partie, je remercie quand même beaucoup tous mes collègues pour toute leur activité, tout leur travail, que ce soit sur l'encyclopédie, avec les relateurs, que ce soit les messages de blog, le travail sur le Twitch, sur le manuscrit Maestro Aemon, que ce soit les podcasts que je peux faire, mais qu'il y a aussi Chris et d'autres encore avant, on fait. Maintenant, on tente d'être complet, mais ça demande beaucoup de temps et ça demande d'avoir, comme ce qu'on a actuellement, une équipe, une actualité qui est encore très active.
Ouais, bravo à vous.
Merci.
Super.
Comme j'ai commencé un petit peu à le dire, chers auditeurs, en attendant le prochain épisode, abonnez-vous au flux. Envoyez-nous vos commentaires par corbeau numérique, que ce soit sur les applis de podcast, sur YouTube, sur le forum et sur Discord maintenant. D'ailleurs, je rappelle que niveau planning de sortie pour ce qui est podcast, le lundi, en milieu de mois, c'est un son du mur, et en fin de mois, c'est un garde-vous. Alors, soyez au rendez-vous. Je vais me répéter un peu, mais la garde de nuit, c'est un blog, c'est un podcast, c'est un forum, c'est un wiki, c'est un Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, quelle que soit votre volonté, quelle que soit votre génération et le moyen dans lequel vous voulez nous rejoindre, mais rejoignez-nous. Et puis on tentera de continuer avec vous à parler de l'univers des Trônes de Fer et de l'univers de G.R. Martin. Encore merci à toi, Émilie.
Merci à vous. Enfin, à vous, le vous.
Oui, oui, j'ai bien compris. Donc, j'espère qu'on aura droit à d'autres activités après. Et l'un comme l'autre sont des personnes qui ne sont pas tout jeunes, mais qui ont encore, je pense, sous la pédale pour pouvoir nous sortir des belles œuvres.
On espère, on leur souhaite.
Alors, chers auditeurs, Émilie, au revoir et puis au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.